que je suis rendu compte que j'avais un joyau entre les mains qui est une plante mal arrosée, tout simplement. Puis moi, j'avais pas besoin d'avoir une maîtrise en administration puis ni d'être brillant. J'avais juste besoin de m'en occuper avec cœur et ça a explosé. Ça, c'est en fin des années 90. J'étais arrivé en 96. En 99, j'offrais à mon père de racheter la business parce qu'on l'avait déjà doublé en 3 ans.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 168e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Et en plus de Hypercroissance, sachez que l'équipe de J7 Media qui est derrière ce podcast produit également 2 autres balados. Social Selling, un podcast 100% orienté publicité Facebook et Commerce Elite, un podcast 100% orienté commerce électronique. Les liens sont d'ailleurs dans les notes de l'épisode si vous désirez y jeter un petit coup d'œil. Également, si vous cherchez un partenaire de croissance pour vos campagnes numériques pour terminer l'année en force, rendez-vous www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, j7media.com/hypercroissance afin d'obtenir gratuitement une analyse de vos campagnes actuelles. Vous pouvez également venir discuter directement avec moi sur LinkedIn si c'est plus facile. Je m'entretiens aujourd'hui avec un bon ami à moi qui a bâti une entreprise formidable au cours des 26 dernières années. Martin Lavallée, président de l'Institut dentaire international, est avec nous pour le 168e épisode du podcast afin de nous expliquer comment il était capable de reprendre l'entreprise que son père avait fondée et la transformer en leader de marché. Et en plus de croissance, Martin nous explique la décision qu'il a prise dans les derniers mois de fusionner avec le cabinet de dentiste Clareo afin d'aider les propriétaires dentistes opérateurs dans leur succession. L'histoire de Martin est totalement fascinante et la stratégie derrière la fusion opérée l'est encore plus. Donc, vous savez la suite. Sans plus attendre, ma discussion avec Martin Lavallée. Martin Lavallée, tu es le président de l'Institut dentaire international, mieux connu sous le nom de IDI. L'entreprise qui fut fondée il y a plus de 40 ans maintenant offre de la formation en continu à l'industrie dentaire de l'Est du Canada. L'entreprise que tu as rachetée à ton père à la fin des années 90 a connu une fusion dans les derniers mois et c'est en partie de ce sujet qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Martin Lavallée, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance.
Bonjour, merci beaucoup de votre accueil et toute une introduction. Un plaisir d'être là.
Puis bon, Martin, avant de parler de tes 26 ans d'affaires, c'est assez exceptionnel ça, 26 ans que j'ai été capable de voir que tu as racheté l'organisation IDI. Peux-tu prendre un peu de temps avec notre audience afin de bien expliquer qu'est-ce que fait ton entreprise?
Certainement. Donc, Institut dentaire international, communément c'était une école à l'époque quand on a commencé il y a 40 ans. Bon, j'étais pas évidemment impliqué il y a 40 ans, mais le paternel avec des dentistes que j'appelle... progressif, on va dire comme ça, des dentistes qui faisaient le tour du monde, qui étaient curieux, voulaient apprendre des choses, ont développé des expertises plus poussées. Et quand ils revenaient avec leurs confrères et consoeurs au Québec, ils se sont vite, rapidement fait dire, écoute, il n'y a pas moyen, ils avaient l'air d'avoir des pratiques florissantes, c'est le fun ce que vous apprenez à l'étranger, il n'y a pas moyen que vous nous parliez de tout ça. Donc ça, c'est la genèse de l'Institut dentaire, c'est comme 3-4 dentistes qui étaient très... progressif, puis qui allait chercher des aspects de la dentisterie qui semblaient super intéressants pour un dentiste commun qui pouvait s'ennuyer à un moment donné à juste faire des réparations de caries, là, si je caricature. Donc, évidemment, ils ont dit, pourquoi ne pas créer une école, tandis qu'il faut que le tour du monde, et c'est de là devient le nom Institut dentaire international. C'est pas parce que nécessairement on a des divisions partout à travers le monde, c'est plutôt qu'on offre localement, ici dans l'Est du Canada, comme tu l'as présenté, particulièrement l'Est du Canada francophone, soyons précis, donc le franco-ontarien, Québec et Nouveau-Brunswick. Et ces gens-là avaient une soif d'apprendre, mais sans nécessairement avoir besoin de partir, prendre l'avion, faire le tour du monde pour aller chercher des différentes écoles de pensée au niveau de la pratique dentaire. Donc, ils ont appelé ça l'Institut dentaire international et puis ils ont fait leur bout de chemin. Je dirais que quand ils ont commencé la première décennie, c'était surtout axé sur la formation reliée aux malocclusions, donc ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'orthodontie là, pour réparer, c'est pas réparer, là, mais plutôt aligner les dents. Et eux, c'était ce qui les intéressait le plus et c'est aussi ce qui était le plus interpellant pour les dentistes locaux. Donc, ils ont commencé pendant 10 ans à faire des formations d'orthodontie qu'on appelle interceptives parce qu'en étant des généralistes et non des spécialistes, il y a une nuance aussi dans l'industrie, puis j'imagine qu'il y en a dans plusieurs industries. Au niveau du domaine médical dentaire, on retrouve des dentistes généralistes qui ont fait un cours universitaire de 4-5 ans. Et on a des spécialistes, c'est des gens qui ont choisi de concentrer leur carrière sur une expertise particulière de la dentisterie. Ils vont aller faire un autre 3-4 ans d'université. Nous, notre école, c'est une école post-universitaire spécialement conçue pour les dentistes généralistes. On ne donne pas de formation plus poussée aux spécialistes qui est déjà allé au bout de ses capacités, en tout cas au niveau, universitaire localement. Donc, j'en reviens au fait que quand on donnait de la formation les 10 premières années, c'était en orthopédie, d'odontie interceptive, ce qu'on appelle l'orthopédie. Faut attention avec des grands mots savants, là, mais les gens de l'industrie comprennent ces mots-là. Et moi, je suis arrivé, si vous voulez, dans le portrait, 12 ans après la création de l'école, et j'étais pas du tout, en fait, c'était pas un de mes plans de carrière de travailler dans l'industrie dentaire du tout, mais on a fait le choix d'élargir, si vous voulez, notre offre de services. Et là, on est allé chercher des experts dans différents domaines de la dentisterie. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, l'école offre vraiment... je peux même plus appeler ça une école. Je suis obligé de changer la dénomination parce qu'on n'offre plus seulement des formations continues post-universitaires. On offre aussi des services, d'analyse de pratique complète pour faire des diagnostics d'un dentiste propriétaire qui a besoin d'aide. À toutes sortes de niveaux, qui peut être bien d'autres choses que ses habiletés cliniques, mais ça peut être des habiletés organisationnelles. Il faut savoir que les dentistes sont comme les vétérinaires, les pharmaciens, les optométristes, c'est-à-dire que oui, ils ont une profession libérale médicale, mais ils ont à gérer un bureau, une entreprise, et ça implique une équipe et tous les concepts de business 101, entre guillemets, et 201 et 301. Et c'est là qu'ils ne sont pas formés pour ça et que l'IDI a vu une grande opportunité à mon arrivée pour pouvoir mettre en place des programmes d'éducation qui vont les aider à la gestion de leur cabinet dentaire. Et donc, c'est devenu évidemment d'autres choses qu'on s'est mis à ajouter à IDI là, dans les 40 ans. Je ne sais pas, c'est une longue réponse à votre courte question. Là.
Mais c'est parfait, Martin.
Pour mettre le contexte, ça ressemble à peu près à ça.
Puis bon, tu disais que c'était pas dans tes plans de te retrouver dans l'industrie dentaire, mais tout de même, on peut voir, si on regarde ton cursus scolaire, que tu as étudié, tu es allé au HEC, donc tu étais en administration des affaires, tu as fait par la suite un MBA également en Europe, je crois bien cette fois-ci, tu es allé faire ça en France, à Lyon. Donc, même si c'était pas prévu que tu te retrouves dans l'industrie dentaire, tu avais quand même une vision de ce que je suis capable de voir, encore une fois, je le répète, avec ton cursus scolaire, d'être dans le monde des affaires. Est-ce que c'était ça le plan? Est-ce que tu voulais peut-être travailler pour d'autres organisations?
C'est une excellente question parce que ça faisait pas du tout partie des plans de reprendre le business de mon père. Je suis absolument honnête. Là, quand j'ai terminé mon secondaire, j'étais allé étudier plutôt au cégep en sciences. Puis pour être bien honnête, c'était plus en médical que je voulais aller. Donc, je voulais soit être optométriste ou en médecin. Et même dentiste m'a passé par la tête, tandis que mon père l'était. Lui me décourageait à l'époque d'entrer dans cette pratique-là, curieusement. Même s'il a très bien gagné sa vie avec ça, je sais pas, peut-être qu'il voulait me faire signe qu'il y avait trop de politique ou trop d'angle mort, puis il voulait essayer de me rendre la vie facile. Il m'a recommandé plutôt d'aller étudier en administration. Et de toute façon, je suis honnête, j'avais pas les notes. Dans ce temps-là, ils appelaient pas ça la cote R, mais la cote Z. J'avais pas les notes pour entrer en optométrie, puis en médecine dentaire. Donc, il a fallu que je choisisse une profession libérale qui était soit la comptabilité, l'architecture, le droit. Donc, j'ai fait des demandes là-dedans dans la fin des années 80. Et finalement, je me suis retrouvé au HEC en comptabilité simplement parce que j'avais eu une formation de comptabilité au cégep que j'avais beaucoup aimé. La tenue de livre, imaginez-vous donc. Fait que j'ai dit, ça a l'air intéressant. J'allais faire mon bac en comptabilité professionnelle au HEC. Et là, je suis obligé de reconnaître que j'ai vraiment pas trouvé ma passion en comptabilité, mais je l'ai terminé, mon bac, jusqu'à l'examen l'EFU, qui appelle final uniforme pour devenir comptable agréé. J'ai travaillé 2 ans en vérification publique qui était faisait partie des critères pour pouvoir devenir CA. Mais je me suis jamais rendu là. J'ai travaillé pendant un an et demi, puis je me suis rendu compte que la vérification, c'était pas ma tasse de thé. Et donc, j'ai décidé d'aller étudier, de poursuivre mes études, mais de sortir du carcan de la comptabilité, puis d'aller plutôt dans quelque chose qui me ressemblait plus, c'est-à-dire les ventes puis le marketing. Donc, j'ai fait le choix de faire un MBA, qui est une suite logique, si vous voulez, là, rester en affaires puis essayer de se réorienter. Et pourquoi Lyon? Pourquoi la France? Parce que, simplement, je connaissais quelqu'un qui était... qui enseignait à l'UQAM, j'avais connu lors de mes études, et puis qui s'en allait en échange à l'École supérieure de commerce de Lyon. L'ESC, c'est une chaîne, si vous voulez, d'universités en France. Et il y avait un campus qui était intéressant à Lyon. Lui, il s'en allait là en échange. Ça commençait à être bien à la mode dans le début des années 90, faire des programmes d'échange. Ça, c'était avant l'avènement d'Internet. Et donc, lui a fait le choix d'aller là. Puis j'ai dit, hey, c'est du coup, je pars moi de suivre. Et je suis allé faire ma demande pour faire un MBA, puis j'ai choisi de le faire à Lyon. Disons, pour toutes sortes de raisons. Oui, pour les sortir de la comptabilité, de me retrouver une nouvelle voie, si vous voulez, plus au niveau de la vente. Là. Mais aussi le fait que j'avais besoin de sortir de ma vie et de me retrouver un peu personnellement. Puis je dirais que quand vous partez comme ça... avec votre baluchon pendant 14 mois, sans capable d'appeler quelqu'un. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de téléphone cellulaire, là, puis on n'était pas capable de nécessairement... Finalement, j'avais vraiment fait ce qu'on appelle un... J'étais carrément comme sorti, là, comme un lac à l'épaule de 14 ouais. mois pour réfléchir à ce que je voulais faire dans la vie. Et je me suis fait une nouvelle gang d'amis, évidemment, là-bas en France. J'ai terminé mon MBA, mais un an et demi après, j'avais juste hâte de revenir. Autant la France et l'Europe était foisonnant. Je m'ennuyais du monde, de ma famille, de mes amis. Donc, je suis revenu travailler pour une compagnie française qui s'appelle L'Oréal, qui est très connue et puis qui avait un bureau à Montréal du nom de Cosmer. J'ai travaillé en marketing pour eux autres parce que c'est des écoles de marketing, ces boîtes-là, pendant 2 ans de temps. Et j'ai tranquillement pas vite, je suis allé enseigner l'administration parce que j'avais une maîtrise. Donc, je travaillais pour une compagnie privée, une autre école, si vous voulez, privée, qui s'appelle Perform. À l'époque, ça s'appelait Perform. Et on s'occupait du 1% de la masse salariale des grandes sociétés. Là, dans ce temps-là, il avait besoin de former beaucoup d'employés, des sous-contractants qui pouvaient prendre soin de si vous voulez, enseigner des concepts à leurs employés qui leur permettraient d'être plus productifs et d'être plus alignés. Donc, c'est le genre de cours que j'ai donné pendant 2 ans avec cette organisation-là. Et c'est là que mon père m'a fait signe et m'a dit, écoute, Martin, ça fait 12 ans qu'on est en affaires à IDI, je travaille avec d'autres docteurs. Décidément, on n'est pas des gestionnaires, on travaille encore à la chaise. On a réussi à faire 12 ans sans trop faire de publicité, sans arroser la plante, tu vois, comme ça. Et on a passé à travers tous les early adopters qui étaient notre clientèle. T'es-tu intéressé à prendre le relais? Et j'ai fait le choix parce que j'étais en fin de contrat. C'est vraiment, les étoiles étaient alignées. Perfect storm. J'ai dit, OK, c'est beau. Je vais aller essayer. Je vais travailler un peu avec vous autres pour voir comment ça se passe. Puis, je tombe en amour avec l'industrie dentaire. Puis, je me suis rendu compte que j'avais un joyau entre les mains qui est une plante mal arrosée, tout simplement. Puis moi, j'avais pas besoin d'avoir une maîtrise en administration puis ni d'être brillant. J'avais juste besoin de m'en occuper avec cœur. Et ça l'a explosé. Ça, c'est en fin des années 90. J'étais arrivé en 96. En 99, j'offrais à mon père de racheter la business parce qu'on l'avait déjà doublé en 3 ans. Puis j'ai dit, là, regarde, on s'est entendu. Et puis, ça fait 27 ans déjà. Et puis là, évidemment, j'ai passé par toutes les étapes de croissance.
Donc, c'est ça, on n'ira pas trop vite, Martin, parce qu'il y a beaucoup de points assez fascinants que j'aimerais discuter avec toi. Donc, on va essayer de situer un petit peu l'audience. On le dit. 92-93, c'est là que tu fais ton MBA en Europe. Tu reviens, tu travailles quelques années pour différentes entreprises. Reprends l'organisation en 1996. Tu dis, tu l'as doublé en 3 ans. On va en parler de comment tu as fait le développement des affaires. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir, tu reprends l'entreprise en 96, mais toi, je pense que tu as des frères et sœurs dans ta famille. Est-ce qu'il y a eu des discussions, peut-être dans des soupers de famille le dimanche, à savoir qui allait reprendre l'entreprise? Comment tout ça s'est mis en place?
C'est une excellente question parce que j'ai omis d'en parler. Je savais pas si c'était trop de détails, mais ça fait partie de mon expérience de vie. Je vous dirais que quand j'ai commencé à travailler en 96, j'étais pas conscient. Je n'ai pas posé cette question-là, évidemment, à mon père, à qui appartenait la société. Dans mon livre à moi, l'Institut appartenait à mon père, mais la réalité, c'est qu'il avait fait un gel successoral. et la société appartenait également à moi et mes 4 sœurs. Moi, j'ai 4 sœurs qui me suivent. On est 5 enfants, 5 ans. Je suis l'aîné. Mais évidemment, quand j'ai doublé la société, j'ai, avec mon équipe, ma petite équipe d'époque, on a évidemment eu un... Mon père m'a approché, si tu veux, genre 3 ans après, puis m'a dit, écoute, Martin, je me rends compte que tu es pas mal le seul dans la famille qui a voué un intérêt à travailler dans et mettre du temps là-dedans. Là, il faudrait qu'on règle des papiers, si tu veux, parce que là, tes sœurs sont encore techniquement copropriétaires avec toi, même s'ils ne se sont pas impliqués là-dedans. Faut qu'on gère ça avant que ça devienne trop gros. Et donc, évidemment, à ma grande surprise, j'ai dit, écoute, en effet, il va falloir qu'on gère ça. Et donc, il a fallu faire une évaluation de la société. Puis mon père, bon père de famille, voulait quand même que qu'on fasse une transaction qui est éthique, honnête et tout ça, mais pas à la valeur où elle était rendue, tant que les filles n'avaient pas été tant que ça impliquées. Mais d'un autre côté, tu vois, c'est délicat, là. C'est des conseils de famille qui ont fait que mes sœurs étaient assez smooth par rapport à ça, puis mais les beaux-frères, c'était un petit peu plus compliqué. Fait que là, évidemment, il a fallu qu'on s'entende sur une valeur médiane, on va dire comme ça. J'ai racheté leur part, évidemment, à la valeur médiane, qui était, je pense, la bonne chose à faire. Et puis, ça a-tu créé des conflits familiaux? Je te dirais que ça a créé des inconforts pendant peut-être 2 ou 3 ans. Fait que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont de la famille impliquée dans l'actionnariat, c'est la leçon à tirer, c'est que le plus vite possible, faut avoir ces discussions-là. Parce que plus ça grossit, plus les problèmes grossissent ou plus les valeurs grossissent, plus les gens ont l'impression de perdre quelque chose. On a une bonne relation familiale, ça l'a beaucoup aidé. Comme je vous dis, c'est souvent les beaux-frères ou les belles-sœurs qui rentrent dans le portrait, qui des fois n'ont pas le contexte et qui peuvent avoir l'impression d'être lésés, là. Donc, pendant, je te dirais que 2-3 Noël, puis 2-3 parties de Noël, ça a été plus... je me suis senti encore obligé de faire des petits cadeaux à gauche puis à droite, là, alors que c'était pas nécessaire. Mais moi, je suis un genre de personne qui a besoin d'avancer dans la vie quand les choses sont claires autour de moi, surtout avec les gens que j'aime, là. Fait que ça a pas été une longue... C'est pas un gros caillou dans mon soulier, là. On passe beaucoup de temps là-dessus, là, mais ça a duré 2-3 ans, puis on a passé à d'autres choses. Je pense qu'aujourd'hui, ils reconnaissent bien que regarde, c'est bien évident que c'est plutôt moi qui s'occupais de l'entreprise. Puis eux, ayant des entreprises aussi de leur bord, en fait, des professions. Ma sœur est médecin, celle qui me suit. L'autre était en économie. Puis mes 2 sœurs jumelles qui terminent, il y en a une qui est vétérinaire, puis qui était professeure spécialisée. Évidemment, il n'y avait pas l'horaire pour s'intégrer dans la compagnie en question. Donc, c'était une bonne décision qu'ils ont prise. Évidemment, il y a des choses qui ont changé, dont, entre autres, ma sœur qui était économiste, elle a décidé de joindre l'organisation parce que je lui ai offert de joindre l'organisation comme 10 ans plus tard. Je vous en parlerai un peu plus tard quand on a déménagé aux 10-30, là, si on se rend là. Et j'ai fait appel à ses services parce que, bon, c'est une bonne tête, mais en même temps, ça me faisait plaisir d'y ramener dans l'organisation s'il y avait le souhait et l'intérêt d'y revenir. Donc ça, c'est pour répondre à votre question reliée à la famille.
Puis bon, parlons maintenant de croissance, parce que ça a l'air d'être un petit peu ton dada, hein? Tu as étudié en marketing, moi je te connais Martin, tu es quelqu'un qui est très bon avec les gens, le développement des affaires, ça te connaît. Tu reprends l'organisation 1996, à l'arrivée des années 2000, tu doubles la société, et à mon avis, tu as continué à croître d'une année à l'autre. À quoi tu attribues cette croissance? Tu parles d'une plante mal arrosée, est-ce que c'était facile d'aller chercher les clients ou tu as mis des initiatives en place qui t'a permis d'avoir cette structure de croissance année après année?
C'est un mélange des deux. J'aurais tendance à dire, si on avait à pondérer, là, que c'était vraiment une opportunité mal exploitée. Donc, je ne me donne pas beaucoup de crédit à part un, c'est d'avoir été passionné et intense dans ma volonté de vouloir. Mais j'ai sûrement été pas si adroit que ça au niveau gestion. Donc, si les gens s'attendent à avoir des cours de gestion sur comment devenir une société, j'aurais tendance à dire que le souvenir que j'en ai, c'est pas parce que j'ai mis en place des systèmes que j'ai appris beaucoup plus tard en faisant partie de IO, on en reparlera. Et puis, où là, j'ai eu l'impression, même si je sortais d'un MBA, là, je vois d'être un peu un charlatan parce que quand on finit un bac et puis une maîtrise, puis on est dans la vingtaine, j'ai la misère à croire que, tu sais, c'est beau les textbooks puis les études de cas, mais Il y a peut-être des choses que je me suis pas rendu compte qui intuitivement sont arrivées, mais la chose où je me rappelle le plus, c'est d'avoir eu la volonté de m'occuper des gens, de les écouter et d'essayer de leur rendre service. Je parle en l'occurrence nos clients, les dentistes qui j'écoutais c'était quoi qui était leur défi, c'est quoi qui comment qu'on pouvait les aider. Puis j'essayais de mettre en place des formations continues qui pouvaient les aider à résoudre. Juste de sentir écouter, je vous dirais, les dentistes ont rapidement, puis il n'y a pas beaucoup de compétition non plus. Fait que, tu sais, disons que j'avais tout était aligné pour moi pour réussir là. Juste d'avoir mis du temps, d'avoir communiqué davantage d'informations, je vais tenir en marketing. Donc, peut-être une des choses que tu dis que j'ai mis en place. J'ai tissé des relations avec tous les acteurs de l'industrie, comme l'Ordre des dentistes du Québec, l'Association des chirurgiens. J'ai essayé de comprendre, si vous voulez, un peu qui étaient les acteurs qui étaient politiquement impliqués dans l'industrie dentaire pour essayer de voir comment que je pouvais me tailler une place en rendant ça à tout le monde. Puis peu importe où je travaillerai un jour dans une industrie, je trouve qu'une des choses les plus importantes, c'est de comprendre c'est qui les players dans l'industrie. Et c'est quoi leur intérêt, parce qu'ils ont toujours des intérêts qui, des fois, sont contradictoires. Mais quand tu vois tout ça de haut, tu es capable de trouver une contribution qui apporte une valeur ajoutée à ces gens-là. Et évidemment, je me suis mis à faire de la publicité puis être visible dans leurs médias à eux et qui touchaient, qui avaient une bien plus grande base de données que moi, que nous, on avait accumulé en 10 ans. Donc, on s'est retrouvé à être beaucoup plus visible dans l'industrie avec un message qui était très focus. On donnait juste une formation dans ce temps-là qui était l'orthopédie, l'orthodontie interceptive. Facile de pas être trop maladroit quand tu as un message à donner qui est d'aider les jeunes patients qui ont des problèmes de occlusion. On s'adressait aux parents de ces gens-là. Tu sais, ça paraît niaiseux, mais c'est des analyses qui disent quand on se fait connaître, les gens savent qu'on est là, ben ça a vite cru. Et évidemment, c'était pas une très grosse business quand que je m'en suis impliqué. Donc, la doubler, c'était pas comme je vois pas ça comme un super défi. Là. Aujourd'hui, je trouve ça pire là, parce qu'on est rendu dans une autre scale. Mais dans le temps, c'était quelque chose qui s'est fait naturellement. Donc, c'était pas mal ça. Je veux dire, c'est vraiment d'énergie, bien comprendre les acteurs qui étaient présents, prendre le temps de leur parler, voir se présenter, voir comment qu'on peut les aider, être beaucoup plus visible dans le marché. En utilisant leur base de données à l'époque, là, qui est, comme je vous disais, l'Internet commençait à ce moment-là. J'ai été, en fait, un des premiers à avoir un site web en 96. C'était codé, là, c'était très, très ordinaire comme look, mais c'était quand même, j'étais plus jeune, donc c'était normal que j'étais plus sensible à ce genre de choses-là que les dentistes qui étaient propriétaires avant ne voyaient pas du tout.
À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenus natifs et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, le chiffre 7, média au singulier.com /HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Bon, et par la suite, tu l'as mentionné brièvement, vous déménagez au 10-30. Moi, j'ai eu la chance de visiter vos bureaux. C'est des emplacements assez exceptionnels. Et je crois que votre déménagement au 10-30 s'est fait pas mal au même moment que le 10-30 a vu le jour. Vous êtes arrivé sensiblement où tu étais dans les premières bâtisses, on va dire ça comme ça, de l'écosystème un petit peu qui s'est construit à Brossard. Parle-nous également des réflexions derrière ça, parce que je crois que ça a été un très gros changement pour vous qui venait avec certains investissements.
Exact. Ça, c'est arrivé en 2000. Bon, on fait un fast-forward parce qu'on vient de terminer l'époque où j'ai, si vous voulez, acheté l'entreprise en fin des années 90 jusqu'à la fin des années 2000. Je suis resté 10 ans où on était dans le locaux de Longueuil et j'ai cherché à ajouter davantage de services à IDI. Et est venu un moment donné où on n'avait seulement qu'une salle de formation, salle de classe, concrètement. On ne pouvait pas recevoir plus que 36-45 personnes maximum tassées. Et la seule façon pour nous, on était déjà à pleine capacité parce que dans l'industrie dentaire, il faut comprendre quelque chose là, au niveau de l'éducation. Les dentistes ne fermeront pas en général leur bureau la semaine pour venir sur des cours parce que c'est des opérateurs. Puis s'ils ne sont pas à la chaise, il n'y a pas de revenus qui rentrent parce qu'ils ne peuvent pas déléguer des revenus à d'autres. Ils peuvent le faire auprès des hygiénistes, mais il faut qu'ils soient en supervision. Donc, ça ne change pas. Il y a de gros coûts de renonciation, si vous voulez, quand ils ferment leur bureau. Donc, puis surtout, le type de clientèle qu'on attire, c'est des gens qui ont des bureaux qui sont productifs avec des grosses équipes. Donc, où je veux en venir, c'est que quand tu fais des cours les vendredis, samedi, dimanche, il y a tant de vendredis, samedi, dimanche dans une année, le temps n'est pas élastique. Et si on enlève l'été, où c'est impossible d'attirer des gens au mois de juin, je dirais mi-juin à mi-août, là, c'est comme bonne chance, là. Et donc, puis t'enlèves les fins de semaine que j'appelle les congés fériés habituels, qui sont l'action de grâce, Noël, et puis fête du travail, j'en oublie, là, je suis dans le désordre, mais Pâques et compagnie. C'est des cours, des fins de semaine, on peut difficilement attirer des gens. Fait que ça nous fait un maximum de week-end, de vendredi, samedi, dimanche, j'avais déjà atteint 10 ans plus tard, donc encore à Longueuil, dans la fin des années 2000, la capacité maximale. Donc, la seule façon que je pouvais augmenter, c'est ça, de doubler les revenus en montant, en doublant le coût, le prix des cours, ce qui n'aurait pas été une solution si les gens arrêtaient de venir, ou c'était de déménager puis de trouver une façon d'attirer plus de monde dans la même place. Et j'ai été obligé de penser à déménager pour deux raisons. Pour ça, la capacité atteinte, mais aussi parce que le loyer où j'étais était échu. Et donc, il fallait que je prenne une décision soit de rester où j'étais puis d'écrémer la vieille vache. Je faisais des excellents EBITDA dans ce temps-là. Parce que évidemment, on avait à côté puis il n'y avait pas des grandes dépenses. Ben, j'ai fait le choix un peu à l'aveugle de dire, regarde, j'ai 39 ans à ce moment-là, en 2008, je pense. Ouais. Et j'ai dit, OK, garde, on cherche d'autres choses. Et le 10-30 commençait à faire de la publicité. Vous l'aviez bien dit, c'est en 2008 que ça a été créé. On était dans, ils m'ont amené ici parce que je suis assis là aujourd'hui. Et puis, j'ai comme eu une vision, là. Puis, j'ai vu le setup. Puis, je me suis dit, écoute, ça faisait, bon, 14 ans que je disais à mes dentistes, faut aller changer ta voiture de part, de côté de la rue. Il n'y avait pas d'hôtel à côté. Les gens, fallait que j'aille les reconduire parce que souvent, ils venaient en taxi. Écoute, c'était disons que tout ce qui s'appelait autour de la formation, c'était vraiment zéro. Les restaurants, fallait qu'on mange du Saint-Hubert dans la classe. C'est drôle, là, pendant un bout de temps, mais à un moment donné, ça fonctionne plus. Et donc, tout ça a fait que j'ai décidé de venir au 10-30. J'ai vu l'hôtel à côté, le stationnement souterrain gratuit à l'abri de la neige l'hiver parce que les gens grattaient le... C'était toutes les frustrations que j'appelle les amenities qui sont autour là, de la formation. J'avais toutes les solutions dans le main complexe Lifestyle Center qui appelle, quartier 10-30. Et donc, j'ai dit, OK, on s'en vient ici, on va se bâtir. On avait un local. J'ai dit, on va se faire 3 classes au lieu d'une pour attirer plus de monde. On va créer une synergie. Ça va être le fun. Bon, évidemment, c'est venu avec un coup, tu l'as bien dit. Ça me coûtait 5 fois plus cher de... Mon seuil de rentabilité venait de quintupler. Évidemment, c'est pas un problème si tu triples les revenus dans mon cas. Et donc, j'ai fait le choix de faire le move. Et je l'ai fait. Puis ça, c'était un peu... disons que si j'avais été trop lucide et j'avais consulté trop de professionnels, je pense qu'ils m'auraient éteint. Et je pense que je l'aurais pas fait. Et ça aurait été triste parce que je regarde aujourd'hui ce qu'on a réussi à faire quand des fois tu te mets dans une position où tu investis et tu te dis la seule affaire que je peux faire, c'est de ramer là, pour passer à travers. Je m'en suis rendu compte 6 mois, 1 an après, parce que je me suis rendu compte que je balançais pas. Là. Les dépenses étaient vraiment 5 fois plus élevées. Je parle du loyer, je parle de remboursement des améliorations locatives, qu'il a fallu qu'on construise tous les prêts qu'on a faits pour acheter l'équipement ici. Évidemment, on s'est retroussé les manches, puis on trouve toujours une solution quand on a quand on y croit. Puis j'ai grossi l'équipe, puis je cacherai pas que le 10-30 m'a aidé beaucoup parce qu'ils ont indirectement fait beaucoup de publicité pour leur projet Et moi, j'avais qu'à m'associer à eux, puis dire, regarde, on est rendu au 10-30, on peut joindre l'utile à l'agréable, vous allez pouvoir venir suivre des cours, mais vous pouvez amener votre famille avec vous, parce que souvent, c'est un des deux professionnels de la famille qui vient suivre des cours le week-end, ça fait toujours un peu chier le reste de la famille pendant qu'ils sont pas là. Là, je me disais, ben non, amenez-les avec vous, vous allez coucher à l'hôtel, ils vont pouvoir aller s'amuser au cinéma, au spa, bon, peu importe l'âge des gens impliqués, parce qu'il y a de tout ici. Et j'essayais de trouver une façon de, et ça a créé, ça a vraiment créé un engouement. Je suis obligé de reconnaître que ça a créé un engouement. Et ça, c'est en sortie de la crise économique. Puis là, ça s'est mis à lever. Puis les gens, « Hey, as-tu entendu parler de DI? C'est le fun, on s'en va là. » Et j'ai senti que bouche à oreille a fait son effet. Tranquillement, pas vite, on a réussi à rembourser nos prêts. Donc, nos costs étaient un petit peu moins élevés. Puis les revenus montaient. Et là, on se regarde ça. En 2008, on est rendu comme 13 ans plus tard. Et on a évidemment... Là, il faudrait que je fasse le calcul dans ma tête, mais on a presque tout triplé les revenus.
Mmh. Ouais, mais t'as fait pas le choix.
Les dépenses sont pas les mêmes. Là. Donc, mais on se retrouve avec des EBITDA qui dépassent ceux qui étaient là-bas quand on avait vraiment le chalet. Là.
Mais on s'entend, Martin, t'avais pas le choix. Parce qu'à un certain point, n'importe quelle organisation, on atteint une certaine croissance et on atteint ce plateau. Et toi, t'étais dans un plateau de capacité. Hein? T'avais simplement pas assez de capacité pour générer plus de revenus. Et là, on doit passer à travers ces transitions-là qui, des fois, avouons-le, sont douloureuses pendant quelques années, mais sont nécessaires pour la survie de l'organisation. Parce que soit tu grandis ou soit tu perds des parts de marché. Et habituellement, la deuxième option, c'est pas tellement une option qui est viable sur le long terme, là.
Eh oui, puis étant le seul baveux qui a créé une école comme ça dans le coin, je dirais que c'est une bonne chose pour moi, parce que si on avait eu, j'avais eu deux, trois coqs comme moi qui auraient créé la chose, la même affaire à côté en même temps, ça aurait créé une dilution dans le marché, ça aurait fait du noise. Aujourd'hui, je suis content de voir qu'on a inspiré d'autres mondes, puis ils font des écoles comme ça, puis je me redis tout le temps, regarde, si tu l'as dans le cœur, fais-le, mais sous-estime pas ce que ça va demander. Comme ajustement. Parce que quand tu crées quelque chose comme ça, qui est un gros happening, tu as toujours une vague d'early adopters, mais à un moment donné, qui viennent t'aider, tes amis, les premiers sont là, mais à un moment donné, il vient un moment où il faut que tu arrives avec, à attirer du monde qui te connaissent pas. Et puis, qui ont pas l'impression qu'ils te font une faveur en s'inscrivant chez vous, là. Et c'est là que ça devient plus difficile. Puis moi, ben, j'ai été, ce que ça m'a amené, je dois t'amener sur un sujet, parce que je sais pas si c'est une des questions que tu voulais poser, là, mais, ça m'apparaît naturel comme segue, là, c'est que quand j'en ai arraché les deux, trois premières années financièrement, parce que évidemment, j'arrivais pas à faire des sous, là, on faisait des pertes. Heureusement, la banque m'a supporté là-dedans. Mais disons que tu cherches beaucoup des solutions. Puis une des choses qui m'est arrivée à ce moment-là, c'est qu'on m'a. Je faisais affaire avec des sous-traitants en marketing, en toutes sortes de choses, et j'ai rencontré une sous-traitante qui, elle, était de IO Montréal. Et elle m'a dit, Martin, je te regarde un livre, je regarde ce que vous faites puis ce que tu veux faire. Maudit, il me semble que tu profiterais à partager ce que tu vis avec des entrepreneurs comme toi. Elle m'a présenté au Montréal, elle m'a amené dans une activité. Et évidemment, j'ai dit, c'est ça que ça me prend. J'ai pas le choix. Je suis rentré membre et j'ai participé aux premières activités. Première année, on s'en est rencontré Vern Harnish qui a écrit The Rockefeller Habits puis Scaling Up. Et puis, on t'a rencontré à Barcelone parce qu'il est rendu là maintenant. En tout cas, à l'époque, il y était. Il a peut-être déménagé depuis. Là. Je vous parle de ça, ça fait peut-être 10 ans. Là. Et ça a été une révélation. Et lui m'a présenté, j'ai demandé carrément, peux-tu m'aider, voici ma situation. Évidemment, il m'a répondu qu'il y avait des coachs un peu partout répartis dans le monde. Puis qu'à Montréal, c'était Cléo Maheu. Je la nomme parce que je lui rends hommage. Elle m'a vraiment permis de, moi, je pourrais dire, de regarder la situation d'un tout autre angle et puis de refaire le tour, de faire un assessment puis un diagnostic de ma business, tant au niveau stratégie, tant au niveau des individus qui étaient avec moi, tant au niveau de l'exécution, la façon que je fonctionnais, puis toute la question là, financière, comment je voyais, quelle chose pouvait faire une différence. En fait, tout ce qu'on peut y lire dans le Rockefeller Habits, là, puis dans Scaling Up. Et j'ai ça a vraiment aidé. Je vous dirais que ça m'a permis de mettre en place des systèmes. Là, je dirais que j'ai commencé vraiment à être un gestionnaire. Parce qu'avant ça, ça a été juste de l'amour puis de les bonnes intentions. Rendu là, ça, c'était plus suffisant. Là, j'ai commencé à mettre en place des systèmes. Je me suis entouré d'un comité de direction. Je faisais ça tout seul. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Et là, on est rendu 4 dans notre comité de direction, puis on se, évidemment, on a un rythme d'exécution qui est exceptionnel. Ça nous a donné une énergie. Et on met en place des choses une à la fois. Et j'avais besoin de ça. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai une business qui est plus en santé et ou qui est avec des gens qui sont plus alignés. Et quand c'est comme ça, ben, tu es plus aperçu dans l'industrie. Et évidemment, ça va amener ton 5 mois à la prochaine étape, c'est qu'évidemment, on s'est mis à être remarqué dans l'industrie. Là, ça attire des investisseurs ou des partenaires potentiels pour la première fois qui se sont dit « Oh, peut-être qu'on devrait regarder comment on peut travailler avec eux autres. » Mais là, je ne veux pas t'empêcher de
rester. Ben, c'est exceptionnel là, de t'entendre dire ça, de parler si bien de Cléo, que je connais bien d'ailleurs, pour les gens qui veulent en savoir un petit peu plus. Cléo Maheu, qui est une coach renommée, qui travaille avec des clients comme Martin et d'autres gestionnaires d'organisations assez exceptionnels. Ici, on revient un petit peu, Martin, à ce que tu as mentionné, la visibilité que ton organisation prend, parce qu'il faut le dire, ça a été annoncé sur ton site web et tes médias sociaux, je crois, en avril dernier, que vous avez fait une fusion avec Clareo, une fusion qui, ultimement, va aider IDI à grandir et Clareo à grandir, mais également, dans des discussions qu'on a eues préalablement, aider également des cabinets dentaires à voir peut-être une porte de sortie à un certain point avec leur organisation, parce que c'est pas tout le temps simple pour eux. Peux-tu nous parler un petit peu de la genèse, des discussions qui ont eu lieu avec Clareo et peut-être également des réflexions que Martin Lavallée a eues au moment de se dire « Ah, c'est peut-être le temps d'aller chercher un partenaire financier pour grandir encore plus ».
Tout à fait. Écoute, ben c'est là où je m'en venais avec mes sabots. Quand on a maintenant presque 30 ans à desservir des professionnels, nos clients grandissent et vieillissent avec nous, on va le dire comme ça. Et il est venu à un moment donné où donner des formations, donner de la consultation pour les aider dans leur bureau, faire du support puis du mentorat avec notre équipe de dentistes là, qui font partie de notre équipe de mentors et qui les aident. Puis tout ça, c'est plus suffisant. Les gens sont été rendus depuis... Bon, un, je disais tantôt qu'il était plus remarqué dans l'industrie. Notre empreinte était plus importante. On est devenu la plus grande école... ou la plus grande école qui donne des services d'aide aux dentistes au Canada, même si on se concentre seulement sur l'industrie francophone, je dirais le secteur francophone, on est quand même devenu plus gros. Puis je pense qu'une des raisons, c'est qu'on s'est bâti une organisation de fous ou d'estrantes, comme tu en as parlé tantôt, qui m'a donné tout un choc, mais qu'on a réussi à passer à travers. Et là, bien évidemment, les gens commençaient à venir me voir et me dire, ben écoute, vous recevez 1500 personnes par année dans votre école où vous traitez, puis en plus, on aide un autre 200-300 personnes en consultation. C'est presque 2000 professionnels par année qu'on voit. C'est sûr que les gens veulent avoir accès à ce Rolodex-là, si tu veux. Puis deuxièmement, ils veulent aussi comment qu'on peut travailler ensemble pour les aider davantage. Puis une des choses qui est sortie, comme je le disais, les clients ont vieilli avec moi, on tourne en cinquantaine. Et là, les dentistes souvent se posent la question qui va prendre la relève de mon bureau? Et de plus en plus, dans les dernières années, j'entendais mes clients me dire, écoute, Martin, normalement, moi, j'ai acheté de quelqu'un, mais les jeunes qui sortent aujourd'hui, puis c'est pas péjoratif ce que je vais dire, là, mais il y a vraiment une différence assez marquée dans la façon dont les jeunes dentistes dans la vingtaine aujourd'hui ou jeunes trentaine voient la profession. Et une des choses, ben, c'est une autre génération. Puis je vous dirais qu'il y a deux choses qui les freinent à investir comme propriétaire dans un bureau. Un, la valorisation des cliniques dentaires a explosé avec l'arrivée des private equity qui se sont intéressés à l'industrie dentaire il y a à peu près 7-8 ans et qui ont commencé à acheter des bureaux parce qu'ils se sont aperçus que c'était une valeur refuge, la santé, puis qu'il y avait moyen d'investir là-dedans pour avoir des investissements privés qui étaient plus rentables que ce qu'on trouve sur les valeurs mobilières, même sur les immobilisations là dans l'immobilier. Et donc, ça a fait gonfler la valeur des bureaux à un tel point que... Puis les bureaux aussi sont meilleurs qu'ils étaient, disons-le. Ils produisent, on voit moins le mom and pop shop là, du dentiste qui travaille dans une strip de centre d'achat ou dans son sous-sol. Maintenant, c'est comme des grands bureaux. Ils ont investi, ils ont mis un capex de 5 à 10 millions pour bâtir de quoi. C'est normal que les revenus sont plus élevés puis ça devient plus difficile pour la nouvelle génération de s'imaginer emprunter des millions pour acheter ça. Puis l'autre chose, c'est la culture des jeunes qui est moins intéressée, puis il y a toujours des exceptions, là, parce qu'il y a toujours un 20% de gens qui sortent de la norme, mais 80% des jeunes, on voit clairement que la qualité de vie, le fait de dire je vais travailler 3-4 jours par semaine, moi j'en ai assez avec ça. Puis moi, gérer des équipes, embarquer avec des... Parce que les bureaux de dentiste, c'est jamais moins de 10. C'est 10 personnes, ça peut aller jusqu'à 50 personnes. Veux, veux pas, c'est un angle mort qu'ils connaissent pas, puis ça leur fait peur. Fait que tout ça mis ensemble fait que les jeunes sont bien, vont travailler pour les moins jeunes, là, si vous voulez, dans les bureaux. Mais quand c'est le temps d'avoir la conversation, de dire, écoute, quand est-ce que tu serais prête à sortir de l'argent pour m'acheter puis faire une transition, ça devenait un enjeu. Tellement que nos clients qui se font face à ça, là, ceux qui ont à vendre des cliniques, venaient nous voir à ID, ils me disaient, écoute, je vois pas à qui je peux vendre. Et à part des groupes dentaires puis des investisseurs privés, Martin, pourquoi t'es pas impliqué là-dedans avec l'école? Y a-tu moyen de... Fait que ça m'a comme piqué ma curiosité. J'ai rencontré des différents private equity au Canada, les groupes, des réseaux, pour pas les nommer, qui sont des réseaux qui ont des centaines de cliniques au Canada. Et puis, on a essayé de voir. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait une synergie naturelle pour un réseau dentaire qui avait, par contre, de l'intérêt sur la formation et le développement des jeunes pour prendre la relève. Et je me suis rendu compte qu'il y a une nuance dans l'industrie entre certains réseaux dentaires que je ne vais pas nommer, là, parce que ça ne donne absolument rien de mettre ça à ses lettres, mais qui ont plus le... Moi, je pourrais dire, pour vous résumer ça, qui vont attacher, ils vont dire, OK, c'est beau, on va acheter votre bureau, tel docteur, mais on va vous attacher pendant 5 ans parce qu'on va vous donner un gros chèque, mais en échange, vous allez produire autant, sinon plus, d'EBITDA que vous allez faire pendant tant d'années ou le multiple que je vous donne. Et si vous le faites pas, ben vous allez avoir une conséquence sur la balance de vente et compagnie. Donc, tout est axé sur... On investit dans un senior qui produit, puis on ne forme pas la relève. Alors que j'ai rencontré, après avoir fait plusieurs assessments avec plusieurs groupes, j'ai fini par rencontrer un investisseur local qu'on peut nommer Walter Capital, avec qui on a décidé, c'est un family office de Montréal, de Westmount, qui réunit, si vous voulez, des fortunes de famille là d'ici. Et qui, eux, ont décidé, ils étaient déjà investis dans certains réseaux d'optométristes, bon, look, Epiderma, la dermatologie, et j'en passe au niveau vétérinaire. Donc, ils connaissaient la qualité d'investir dans les réseaux de santé pour diversifier le portefeuille des familles. Et ils n'étaient pas dans le dentaire. Et ils sont venus me voir, mais en fait, pour dire la vérité, ils sont plutôt allés voir avant un autre réseau québécois qui s'appelait Groupe Santé Dentaire de Gatineau. Et ils ont dit, écoutez, ça vous tente dessus. Nous, on veut pas partir de scratch, là. On partira pas un back-office de gestion de bureau de scratch. On va faire l'acquisition d'un réseau qui semble avoir un back-office qui peut scaler. Et on va ensuite aller rencontrer une autre organisation, en l'occurrence la mienne, la nôtre, maintenant. Et ils ont décidé de nous mettre ensemble. Donc, ils ont créé une synergie en disant, on va prendre un back-office qui peut grandir et qu'on part pas à zéro. Il était déjà comme une douzaine de cliniques, je dirais, au Québec. Et ils se sont dit, maintenant, on va s'assurer de faire une fusion, si vous voulez, avec l'Institut dentaire. Et on va se servir du réseau de l'Institut dentaire. Mais surtout, on va proposer quelque chose de différent de ce que je vous disais tantôt. C'est-à-dire, on va offrir aux seniors d'acheter leur clinique, mais au lieu de mettre toute la pression sur leurs épaules, on va la répartir sur la relève avec eux. Et puis l'école étant, parce que les autres réseaux n'avaient pas l'école et si vous voulez, à l'interne, là, les ressources pour former les jeunes à prendre la relève, alors que nous, on l'a, c'est notre mandat à l'Institut dentaire. Donc, on s'est dit, bon, ben regarde, on va proposer aux seniors, s'ils sont pas pressés de partir le lendemain, là, donnez-nous 4 à 5 ans, on va vous payer, on va bien vous payer vos honoraires, mais votre rôle, ça va être d'aider avec l'Institut dentaire à coordonner la formation de jeunes dentistes et de jeunes hygiénistes, tous ceux qui opèrent, et puis s'assurer que la production que vous alliez délaisser en ralentissant, elle soit prise en charge par la nouvelle génération de façon éthique. Là. On parle pas de fourrer les patients là, puis de faire de la surfacturation. On parle de bien les éduquer avec un IQ dentaire qui permet de bien servir la patientèle et puis de faire les choses correctement. Mais ça passe par l'éducation, la formation continue. Puis nous, on a la recette. Donc, on a maintenant développé, si vous voulez, puis on a rebrandé Groupe Santé Dentaire. Ils l'ont appelé Clareo. Et maintenant, Clareo et IDI, si vous voulez, travaillent ensemble pour... ils sont les deux la propriété, si vous voulez, d'un holding dont Walter est le principal propriétaire, mais moi, j'y suis copropriétaire et les principaux dirigeants de Claro le sont aussi. Si vous voulez, on est tous ensemble copropriétaires de deux organisations, qui est l'Institut dentaire et Clario. Clario, c'est le réseau dentaire. On est rendu à 16 ou 18 cliniques. Le but, c'est d'en avoir, je vous dirais, on n'a pas la prétention d'être national, là, parce que nous, on voulait, avec notre offre qui est différente, puis qui DI, c'est la formation francophone, on s'est dit, on va se limiter puis essayer de dominer au moins le marché francophone avec 50 à 100 cliniques d'ici les 5 prochaines années. Ça vous donne une ordre de grandeur de ce qu'on voit. Et on veut s'arranger que ces cliniques-là soient des cliniques flagship qui sont hyper formés, si vous voulez, bien orchestrés avec tout ce que le fast track qu'IDI peut apporter à ces professionnels-là. Donc, non seulement on rend service aux seniors qui veulent faire une transition de façon honorable, mais on rend service à toute la jeune génération de professionnels dentistes et hygiénistes qui veulent apprendre plus vite et qui veulent prendre la relais. Et la beauté du, si on rentre dans les, dans, si vous voulez, dans le partenariat puis le développement d'équité pour ces jeunes-là, Clario est prête à offrir de l'équité pour les jeunes. Au lieu d'être obligé d'emprunter, je sais pas, je dis un chiffre au hasard, 3-4 millions, puis d'avoir des paiements qui n'ont pas d'allure par mois, qui les choquent puis qui les paralysent dans leur travail, on leur offre plutôt d'acheter une plus petite portion à la hauteur de leur capacité d'emprunt et de leur capacité de risque, dépendant du niveau de tolérance au risque des jeunes investisseurs. Mais on leur permet d'acheter un plus petit nombre et ils vont se sentir copropriétaires du réseau. Ils vont l'être aussi. Et ils vont développer une équité à la hauteur de ce qu'ils vont avoir été capables de mettre. Ce que je trouve important parce qu'ils ne réalisent pas à leur âge ce que ça peut apporter. Mais tu sais, quand tu passes ta vie à travailler en horaire, si tu n'as pas développé une certaine équité à côté, je trouve ça un peu triste. Et Claro offre l'opportunité de faire ça. Ben, on leur offre l'opportunité puisque j'en suis copropriétaire. Donc ça, c'est le modèle. Je ne sais pas si ça résume un peu. Là,
ben oui, et surtout pour les... Surtout pour les gens aujourd'hui qui nous écoutent et qui ont des cabinets dentaires et qui se posent les questions que tes clients, que tes amis se posent depuis longtemps. Mais vous savez qui aller, avec qui aller parler. Martin, peut-être avant de te laisser filer. Bon, cette transaction-là a eu lieu
de ton côté, 1er avril.
Toi, de ton côté, ce plan d'aller chercher ces 50, ces 100 cabinets dentaires-là, on parle de combien de temps? À quoi ça ressemble le futur pour Martin Lavallée?
Ben, en fait, mon plus grand défi, je vous dirais, depuis la transaction, c'est de faire connaître ce que je viens de vous dire. L'offre et la distinction par rapport aux autres alternatives que les dentistes seniors ont. Parce que si on n'a pas un enfant qui est gradué en dentisterie, qui est moins en moins le cas, et les options qu'ils ont à part de léguer à leur enfant, c'est de vendre soit des jeunes qui n'ont pas vraiment les moyens de le faire ou qui ça va les paralyser, c'est pas ça qu'on veut, ou soit de s'adresser à des, comme je vous disais, des investisseurs privés. Mais nous, on a une alternative qui est plus axée sur le développement de la relève. Donc, je dirais aux dentistes qui nous écoutent, puis c'est aussi mon défi dans la prochaine année, c'est de faire connaître clairement à l'ensemble des professionnels de l'alternative qu'ils auront quand ils seront rendus interpellés par leur plan de relève. C'est pas toujours c'est pas à 65 ans qu'il faut en penser, pour penser à ça. Pour faire une relève puis une transition qui a de l'allure, faut se donner 3 à 10 ans pour aller chercher le maximum des deux côtés, autant au niveau du senior que du junior qui prend la relève. Et donc, c'est pour ça qu'on commence à s'adresser déjà à des gens dans la quarantaine, nous. Et puis même, ça, c'est pour ça qu'ils veulent vendre. Mais on veut aussi, il faut que je passe un message aux jeunes qui, eux, n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds puis qui disent « Hey, j'aimerais ça me trouver un réseau dans lequel je peux, oui, travailler avec tous les avantages que ça peut avoir de travailler dans différents endroits physiques, mais qu'en plus, je peux avoir de l'équité dedans, le réseau. Et donc, investir dans quelque chose que je connais, qui est la dentisterie, dans lequel j'ai indirectement, je fais une différence dans la croissance du bureau. Et donc, pour répondre à la question, mon défi promis dans les prochains, je dirais, 12 à 24 mois, c'est vraiment que l'industrie, ça soit très clair ce qu'on a à offrir. Après ça, s'ils veulent décider de travailler avec nous ou pas, ça leur revient. Mais je trouve ça important qu'ils savent que ça existe. Et le but, ce serait, comme je vous disais, si on scale en chiffres, on est à 17, 17, 18 cliniques en date d'aujourd'hui. Je pense que c'est réaliste de penser, après avoir fait des études de marché, là, parce que je n'ai pas été impliqué tout le temps directement là-dedans, que 50 à 100 cliniques me semble un scale, là, si on met un 75 cliniques pour être safe. Là, moi, c'est mon défi personnel d'ici 5 à 6 ans d'y arriver. Et on met en ce moment en place les tactiques là, pour pouvoir y arriver.
Puis Martin, si les gens veulent rentrer en contact avec toi pour en apprendre un peu plus, où est-ce qu'on peut te retrouver?
Ah, écoute, je suis facile à trouver sur LinkedIn. On peut me rejoindre martin@idi.org si on veut m'écrire un petit courriel. Avec grand plaisir, où tu essayes le contact et tu peux leur demander de me contacter. Que ce soit s'ils voient des parallèles dans ce qu'ils font ou ce que j'ai fait, puis ils veulent avoir un experience sharing, ça me fait plaisir. Mais comme je vous dis, j'ai pas la prétention d'être une bête de la réorganisation et du développement d'affaires. Je l'ai fait, c'est vrai, puis les résultats sont là. Mais je suis un peu embêté parce que j'ai pas de recette concrète, puis je serais pas en mesure d'écrire un livre à part de dire que quand on est passionné puis on essaie d'aider les gens autour de nous, en général, puis on est dégourdi, on trouve des façons de le faire, puis je dirais que c'est pas mal comme ça que j'ai vu les plus grands entrepreneurs, c'est pas mal tout le temps ceux qui ont mis en place, plus que des tactiques à gauche et à droite, là.
Effectivement. Martin, ça a été totalement fascinant. On mettra dans les notes de l'épisode des liens pour te rejoindre, pour en apprendre un petit peu plus sur le défi que tu as en ce moment, pour en apprendre un petit peu plus sur IDI. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et bien, pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, ce serait très apprécié si vous pouviez partager le podcast sur les médias sociaux afin de faire connaître le balado à un maximum de gens d'affaires possible. Également, je vous invite à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Et plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.